Nous, on accueille deux rockstars en matière d'études russes et ukrainiennes. Un brillant universitaire, Florent Parmentier, vous enseignez à Sciences Po, vous êtes chercheur associé à HEC et directeur du site Eurasia Prospective. Et à côté de vous, Andrei Gratchev, vous êtes journaliste, historien, vous avez été ancien conseiller de Mikhail Gorbatchev. On vous doit notamment un ouvrage « Un nouvel avant-guerre », un ouvrage relativement noir, plutôt pessimiste, qui ne semble malheureusement pas démenti par ce qui est en train de se dérouler. Andrei Gratchev, il est publié chez Alma Éditeur. Et tout d'abord, nous dire, Camille Magnard parlait d'une non-surprise suite donc à cet affrontement qui a eu lieu dimanche soir dans le détroit de Kerch, qui relie la Crimée à la Russie, avec une marine russe qui s'est emparée de trois navires. S'agit-il pour vous aussi d'une non-surprise ?
Oui et non. Non, parce que une fois étant entré dans ce que Emmanuel Macron vient de qualifier d'entre-deux-guerres, voilà, on vit dans ce climat de la tension presque permanente. On est à l'abri de n'importe quelle montée soudaine des tensions lorsque n'importe quel incident peut se transformer en accident. Et donc, de ce point de vue, depuis le déclenchement d'une énième crise dans les relations entre la Russie et l'Ukraine, et surtout avec cette épine à laquelle s'est transformée toute cette région avec la mer d'Azov, la mer Noire, le détroit de Kerch entre les deux, bien en quelque sorte, la Russie est devenue l'otage de problèmes qu'elle a largement constitué elle-même. Donc, de ce point de vue, cette crise, c'est à la fois était prévue. On peut dire qu'il peut être suivi par d'autres. Ce qui compte, de mon point de vue, c'est de voir les objectifs de chacune des parties dans son déclenchement, parce que tant que pour les deux côtés, la préoccupation, le souci principal reste largement dans le domaine de leur politique intérieure respective, on peut s'attendre à ce que cette tension ne va pas se transformer en une vraie clash, en une confrontation, en un conflit militaire.
Alors on va faire de la pédagogie en votre compagnie, et notamment Florent Parmentier, je vais vous demander quelque chose d'un peu compliqué, de faire de la présentation de cartes. À la radio, ça n'est jamais simple, mais Andrei Gratchev a parlé de différents lieux, il a parlé de la mer d'Azov, du détroit de Kerch, de la Crimée, on aurait pu parler du Donbass. Il faut que vous nous expliquiez à quoi ressemble la carte de cette région et en quoi ce qui est en train de se dérouler est tout à fait essentiel pour comprendre les dessins des uns et des autres dans cette géographie-là.
Alors, ce qu'il faut voir, c'est que nous sommes effectivement sur cette Ukraine de l'Est. Cette Ukraine de l'Est dont une partie est séparatiste. Nous parlons effectivement de la région de Donetsk, la région du Donbass, c'est-à-dire la région en fait qui est à la frontière de la Russie, en Ukraine, peuplée par beaucoup de russophones. En 2018, précisément... en 2018, la situation est la suivante, c'est que la Crimée a été rattachée.
La Crimée qui est de l'autre côté du Donbass.
Effectivement, la péninsule crimienne a été historiquement longtemps fait partie de la Russie. Elle n'a pas toujours fait partie de la Russie, mais en tout cas depuis le XVIIIe siècle. La Crimée, effectivement, a été annexée par la Russie suite à un référendum du 18 mars 2014. Et depuis, c'est effectivement une région qui est disputée entre la Russie et l'Ukraine. La Russie considérant que ça fait partie totalement de son territoire aujourd'hui de manière intégrale, tandis que l'Ukraine considère que c'est un territoire qui a été annexé. Ça, je crois que c'est le point de départ, c'est la péninsule, effectivement, de Crimée.
Et alors, donc, il faut s'imaginer l'Ukraine, qui est donc cet énorme territoire peuplé de 45 millions d'habitants, économiquement dans une situation qu'on va qualifier d'extrêmement médiocre, avec d'un côté donc la Crimée, Sébastopol, que tout le monde connaît, de l'autre côté est le Donbass et cette mer d'Azov qui est refermée par le détroit de Kerch, qui est quasiment une sorte de lac intérieur avec des enjeux extrêmement importants sur la mer d'Azov, Laurent Parmentier.
On peut le considérer comme un lac intérieur, c'est le point de vue de la Russie. Pourquoi ? Tout simplement parce que les deux. Donc, il faut savoir que le détroit de Kerch sépare la mer Noire de la mer d'Azov. La mer d'Azov est intérieure, relativement aujourd'hui, et la mer Noire, finalement, correspond à un espace voilà qui inclut plusieurs pays, y compris l'Union européenne, donc y compris la Bulgarie et la Roumanie, et donc voilà qui a cette présence là. Ce qui est important de voir, c'est que le détroit de Kerch donc est relié, on va dire, il y a une continuité territoriale qui n'est due qu'à un pont.
Le pont récent. Kerch,
récent, qui a été inauguré il y a quelques mois. Et que la difficulté peut être complémentaire, c'est que nous avons une partie de l'Ukraine qui n'est pas tombée en 2014, au moment du conflit. Et donc c'est notamment la ville de Mariupol. Mariupol est un port d'un demi-million d'habitants qui dépend pour l'accès à la mer finalement du détroit du passage de Kerch. Et donc c'est ce passage, toutes les relations entre le grand port ukrainien qui est celui d'Odessa vers Mariupol, qui aujourd'hui se trouve ces flux aussi bien militaires, on l'a vu dimanche, mais aussi civils. Ce sont ces flux qui aujourd'hui se trouvent au cœur finalement de la crise à laquelle nous assistons.
Et alors on peut imaginer que le pont a complètement bouleversé la physionomie de la région, d'autant que ce pont, il a une particularité, c'est qu'il ne laisse pas passer les plus gros bateaux, ce qui veut dire que 20% du trafic maritime là-bas est aujourd'hui empêché, Florent Parmentier.
Oui, et même pour un port comme Mariupol, c'est finalement 60% des flux qui n'existent plus, si on compare la situation avant la guerre. Donc on a véritablement aujourd'hui, non seulement effectivement par le pont lui-même, mais aussi par le fait que les inspections peuvent durer plusieurs jours. Et donc ces inspections freinent le commerce entre la région de Mariupol et plus largement le commerce international.
Donc ce pont russe est une très mauvaise affaire pour l'Ukraine. Andrei Gratchev, pouvez-vous nous dire ce que cherche la Russie? Elle veut faire donc de cette mer d'Azov un lac russe. Pourquoi? Et surtout, quelles sont les raisons que se donnent à eux-mêmes les Russes? Parce que finalement, c'est ça qui est intéressant. Pourquoi Vladimir Poutine mène-t-il cette politique?
Bien, cette politique, bon, déjà, il faut essayer de l'expliquer. Parce que j'ajouterais, comme voilà cette présentation de la carte imaginaire, un aspect quand même intéressant, c'est que l'ensemble de cette région de l'Ukraine de l'Est, historiquement, comme vient d'être dit, peuplée par les russophones et par les russes ethniques, tout simplement, parce qu'il faut bien le rappeler, dès la constitution de l'Union soviétique, avec tous les épisodes qui viennent de la Première Guerre mondiale, l'Ukraine soit découvrait son indépendance avec le retrait de la Russie bolchevique soviétique suite à la conclusion de la paix à Brest-Litovsk, soit elle redevenait alternativement blanche ou rouge, pour finalement devenir soviétique, ce qui a donné aux dirigeants Kremlin successifs toute la liberté de dessiner la carte et les frontières entre l'Ukraine et la Russie. Et la partie est de l'Ukraine, cette partie russophone, mais en même temps, il faut le rappeler, la partie la plus développée du point de vue industriel, voilà, a été en partie rattaché à l'Ukraine, on peut dire, ethnique, culturelle, historique, avec le souci, à l'époque dans la tête des bolcheviks, de rééquilibrer en quelque sorte la composition démographique, ethnique, psychologique, politique aussi. D'où le terme de la Nouvelle Russie ou Novorussie, qui est bien un peu un serpent de mer, ne cesse de disparaître et de réapparaître dans le jargon culturel. Marioupol fait partie de cette Novorussie, Nouvelle Russie, qui, paraît-il, avait fait partie des dessins initiaux de Vladimir Poutine et de la direction russe à l'époque de cette nouvelle brouille entre la Russie actuelle et l'Ukraine de Poroshenko, au moment où les différents scénarios étaient en discussion.
Et oui, c'est-à-dire que pour le dire dans les mots de Vladimir Poutine, et il y a aujourd'hui une situation donc d'indépendance de l'Ukraine qui est une indépendance en réalité héritée de la désagrégation de l'Union soviétique. L'Ukraine n'a été indépendante qu'entre 1990 et 2014, depuis le déclenchement de la guerre, et pour certains Russes, pour Vladimir Poutine, c'est en quelque sorte une parenthèse qu'il faut refermer.
Oui, si on oublie une autre parenthèse historique que j'avais évoquée, c'est-à-dire celle de la Première Guerre mondiale, avec une existence assez brève de l'Ukraine dite indépendante, sous le parrainage soit des Allemands, soit enfin des armées blanches. Bon, ensuite, cet épisode de l'éclatement de l'Union soviétique a produit toute cette galaxie des États indépendants, dont l'Ukraine indépendante, avec un point d'ambiguïté qu'a resté la Crimée. La Crimée qui, même à l'époque soviétique, a été perçue, même si formellement, depuis 1954, sous Khrushchev, d'être rattaché administrativement à la Crimée, a été considéré d'abord au sein de la République soviétique ukrainienne comme une sorte d'entité autonome, avec à l'intérieur de cette autonomie une autre autonomie, celle de Sébastopol, qui a été gérée enfin comme à peu près comme Saint-Pétersbourg et Moscou, comme une ville à dépendance directe du centre soviétique.
Donc Sébastopol, le grand port de la Crimée. Donc ça, c'est pour cette situation du point de vue russe. Du point de vue ukrainien, les choses sont évidemment différentes. Florent Parmentier, peut-être nous rappeler d'abord ce que veut le président Poroshenko. Il a donc institué une loi martiale. Pourquoi l'a-t-il fait et qu'est-ce qu'il souhaite répondre à la Russie aujourd'hui?
Alors, il faut savoir que l'Ukraine se trouve aujourd'hui dans le cadre d'une campagne électorale. Cette campagne électorale donc est celle des présidentielles qui auront lieu en mars prochain. L'une des grandes questions au moment du vote de la loi martiale en Ukraine a été de se demander sur quel territoire allait avoir lieu la loi martiale, d'une part, et d'autre part, tout simplement, y a-t-il avoir un report ou non des élections? Nous avons des éléments de réponse dessus. Ne sont finalement concernés par la loi martiale que les régions frontalières de la Russie et frontalières de la Transnistrie, qui pour mémoire est la partie séparatiste de la Moldavie, donc sur l'ouest de l'Ukraine. Donc on a une loi martiale qui est donc pour 30 jours, limitée dans le temps, qui est limitée en géographie et qui n'a pas pour le moment de report d'élection. Et c'est un point important, car pour le moment, le président Poroshenko est plutôt à la traîne dans les sondages, c'est-à-dire qu'il est en troisième position. Il est donc pour le moment pas du tout assuré d'être au second tour, même si le cadre électoral ukrainien fait aujourd'hui que 50 à 60% des électeurs en réalité n'ont pas fait leur choix. Donc rien n'est perdu pour le président Poroshenko, mais le président Poroshenko qui fait campagne autour d'un triptyque, une langue, une religion, une armée, ne sort pas en difficulté face aux difficultés actuelles. Donc en réalité, on peut penser que ça vient plutôt alimenter sa perception des choses. C'est effectivement quelque chose qui peut arranger, en tout cas une situation qui peut arranger le président russe, mais ça ne dérange pas non plus le président ukrainien. Et c'est bien là l'un des problèmes, c'est-à-dire que les belligérants n'ont pour l'instant, peut-être pas tout de suite intérêt à chacun à baisser la garde.
Et oui, et comme vous le dites, Florent Parmentier, on prête à ce président Porochenko des arrière-pensées politiques. L'une de ses opposantes est bien connue en Occident. Il s'agit de Yulia Tymoshenko. Elle, son parti, l'Union Pan-Ukrainienne, est un parti qui est en train donc de montrer sa défiance à l'égard du gouvernement, et elle pourrait représenter un encombrement de poids dans cette perspective de la présidentielle. Porochenko mène donc une partie qui est une partie de politique intérieure aussi.
C'est aussi une partie de politique intérieure, en effet. Et ce n'est pas la première fois. On a eu, il y a quelques mois, le cas de ce journaliste, M. Babchenko, qui était annoncé mort par un certain nombre de médias, tué par des agents spéciaux russes. Et le lendemain, on a pu s'apercevoir que la nouvelle de la mort de M. Babchenko était, pour paraphraser Oscar Wilde, très largement exagérée, puisqu'on l'a revu tout à fait tonitruant sur les chaînes. Et ce que ça disait, en réalité, c'est que la campagne électorale a déjà commencé en Ukraine.
Alors donc ça, c'est pour la situation politique en Ukraine. Il y a aussi une situation politique en Russie. Et là aussi, Vladimir Poutine, comme la plupart des hommes politiques, fait de la politique, Andriy Gratchev.
Bien sûr, avec quand même cette différence de taille, de ce que, contrairement à Monsieur Porochenko, Poutine a sa réélection derrière lui. Il est confortablement installé pour une période, dirais-je, incertaine au Kremlin. Donc, à première vue, il n'a pas d'intérêt aussi immédiat, je dirais, comme Porochenko, pour l'utilisation, pour réchauffer le plat du conflit entre la Russie et l'Ukraine. C'est-à-dire, il n'a pas besoin d'une petite guerre victorieuse, d'autant plus voilà que dans les relations entre ces deux pays, on voit mal à quoi ça peut se terminer. Donc, Poutine, à mon avis, déjà avec sur ses épaules le poids d'autres problèmes, étrangers comme le conflit en Syrie, qui commence à être de moins en moins populaire dans l'opinion publique russe. Ensuite, avec pas mal de difficultés sur le plan de la politique économique et sociale de son gouvernement, surtout avec une réforme timidement annoncée des retraites, ce qui a dû expliquer une chute assez importante de sa popularité. Je vois pas Poutine s'intéresser à utiliser, à exploiter le thème du conflit avec l'Ukraine à des fins de la remontée de ses sondages.
Les matins de France Culture, jusqu'à 9h, Guillaume Erner.
Et à 8h21, nous retournons en Ukraine, comme vous le savez, dimanche soir, dans le détroit de Kerch, ce détroit qui relie la Crimée à la Russie, avec désormais un pont qui a été construit par les Russes. Eh bien, cette marine russe, elle s'est emparée de 3 navires militaires ukrainiens après leur avoir tiré dessus. Du coup, le niveau de tension dans cette région, qui est en guerre depuis 4 ans, a remonté, avec des implications politiques du côté ukrainien, puisque le président Porochenko est un président assez impopulaire, il y a bientôt des élections, et du coup, le fait de rétablir la loi martiale obéit en partie à des considérations politiques pour tenter de comprendre ce qui se trame là-bas. Et ce qui se trame là-bas depuis des décennies et peut-être même un siècle, eh bien, nous sommes en compagnie d'Andriy Gratchev. Vous êtes journaliste, historien, vous êtes ancien conseiller de Mikhail Gorbatchev et vous avez notamment publié un nouvel avant-guerre chez Alma Éditeur. À côté de vous, Florent Parmentier, enseignant à Sciences Po et chercheur associé à HEC. Peut-être, Florent Parmentier, puisque nous sommes sur France Culture, parler du sort d'un cinéaste dont France Culture a largement fait écho, le sort d'Oleg Sentsov. Il y a un gros dossier sur le web de France Culture à ce sujet. Nous dire en quoi ce cinéaste est la victime indirecte de ce qui est en train de se dérouler en Ukraine.
Oui, peut-être quelques mots pour rappeler qu'Oleg Sentsov, effectivement, le réalisateur ukrainien, était le prix Sakharov cette année. Prix Sakharov qui est décerné par le Parlement européen en ce qui concerne les droits de l'homme. Pourquoi a-t-il été nommé prix Sakharov? C'est que Oleg Sentsov a été condamné par la Russie, que dans ce cadre-là, il est incarcéré en Russie, et il a commencé, il y a quelques mois, une grève de la faim qu'il a dû arrêter. Et cette grève de la faim a fait effectivement un large écho international. On a un certain nombre de cinéastes qui refusent aujourd'hui de se rendre en Russie à l'invitation des autorités russes pour marquer leur solidarité avec le réalisateur ukrainien. En quoi est-il une
victime
effectivement c'est que tout simplement lui-même ne souhaite pas faire une demande d'amnistie qui pourrait lui être accordée du côté russe parce qu'il estime ne pas être coupable. Et donc, partant de là, effectivement, nous sommes dans un rapport de sourds et la personnalité de Oleg Sentsov fait que celui-ci, finalement, eh bien, est toujours emprisonné aussi parce qu'il sait que mais tout simplement, il rappelle aux Européens, aux États-Unis, que le conflit en Ukraine continue d'exister, et donc il a cette vocation. En tout cas, je pense qu'il n'accepterait pas d'être libéré, d'être oublié pour cette raison. Et en tout cas, il a enduré avec beaucoup de cran, finalement, plusieurs mois de grève de la faim pour cette raison-là. C'est continuer à montrer la véracité et l'importance de son combat.
Et alors, Sentsov n'est malheureusement pas le seul artiste, ni même le seul cinéaste à être aujourd'hui poursuivi par Moscou. Il y en a un autre, c'est Kirill Serebrennikov, qui lui va bientôt passer en procès. Il est accusé de détournement de fonds. Je crois ne pas trop m'avancer en disant que ces accusations sont fantaisistes et cachent tout simplement un procès politique, Florent Parmentier.
Oui, effectivement, on a coutume de dire que dans tout conflit, la première victime est la vérité. Le monde des arts n'est pas très loin. Qu'il soit au garde à vous d'ailleurs, ou qu'il soit enfermé lui-même. Ce que nous voyons là, en est la triste confirmation.
Retour à la situation en Ukraine, en votre compagnie, Andrei Gratchev. Il faut rappeler à nos auditeurs en quoi l'Ukraine est avant tout une région martyr. C'est une région qui a été le siège tout d'abord d'une immense famine, conséquence de la politique stalinienne de découlakisation. On l'appelle Holodomor en Ukraine, 5 millions de morts. Puis la Seconde Guerre mondiale qui, on parle d'une grande guerre qui a touché la Russie et l'Union soviétique. Plus précisément, en fait, il faudrait dire que cette guerre a principalement touché l'Ukraine et la Biélorussie. Juste pour fixer dans l'esprit des auditeurs un certain nombre de chiffres, la Seconde Guerre mondiale en Ukraine, et en Ukraine seulement, cela représente 8 millions de morts, environ 1,5 million de militaires parmi ces 8 millions de morts, sur une population qui devait être à l'époque de 35 millions d'individus. C'est quelque chose d'inimaginable. Rappelez-nous les conséquences de ce conflit sur ce qui s'est déroulé en Ukraine, Andrei Gratchev.
Oui, revenons peut-être sur la période d'avant, la Deuxième Guerre mondiale. Bon, cet épisode, ce chapitre de Holodomor, comme le qualifie le pouvoir ukrainien actuel, bon, après tout, ça faisait partie, je dirais, de grand drame national qu'étaient les années 30 pour les vastes espaces agricoles de l'ensemble de la partie européenne de l'Union soviétique. Bon, où s'étaient mélangées à la fois les conditions climatiques, mais aussi évidemment la politique de découlakisation.
Principalement des conditions politiques, quand même,
Staline.
Andrei Gratchev.
En même temps, je dirais que, de ce point de vue, la direction en place à Moscou a été en quelque sorte internationaliste. Donc, de ce point de vue, il n'y avait pas, comme, à mon avis, prétendent les dirigeants ukrainiens, une approche précisément ethnique qui concernerait les koulaks, qu'ils soient ukrainiens ou les koulaks de la région de la Volga.
Bon, c'est bien d'avoir votre point de vue, parce que c'est un point de vue russe, mais je dois quand même souligner que les Ukrainiens seraient en désaccord complet avec ce que vous avez dit.
Comme le point de vue ukrainien a été présenté, voilà, et peut-être il était important de le rappeler également. Ou peut-être une approche plus idéologique, pour colorer...
L'idéologie, c'est toujours les erreurs de l'autre, Andrei Gratchev.
Période, évidemment. Maintenant, revenons au chapitre de la guerre. Déjà, il faut rappeler que l'Ukraine, la veille de la guerre, ne faisait pas partie, enfin, dans sa dimension actuelle, de l'Union soviétique. Et on peut bien, peut-être il faut le rappeler, que l'Ukraine est devenue victime de cette Deuxième Guerre mondiale à partir du déclenchement, c'est-à-dire avec l'attaque par les Allemands de la Pologne. Des régions assez importantes de l'Ukraine, faisant partie de la Pologne de l'époque, ont été, suite au pacte conclu entre Staline et Hitler, bon, le pacte qui était nommé Molotov-Ribbentrop, voilà, avec une ligne de démarcation entre les deux armées, et suite à la conclusion de ce pacte, des parties, certaines régions occidentales de l'Ukraine actuelle, étaient reprise, rattachée, comme ça a été, ou réunie dans le langage de, enfin, des soviétiques de l'époque, à la mère patrie russe ou soviétique de l'époque, dont ces parties de l'Ukraine actuelle, notamment à l'Occident, qui, avec des grandes villes comme Lviv, par exemple, qui
on dit souvent Lvov en français, pour que les auditeurs
oui, Lviv en polonais. Lvov en russe, c'est comme en français. Donc, voilà, qui était devenu soviétique depuis l'année 1939. Et à l'entrée de l'Union soviétique dans la Deuxième Guerre mondiale, suite à l'attaque d'Hitler, bon, je dirais que toute la diversité, tout le mélange des cultures, des ethnies, des religions de cet espace ukrainien est devenu le champ de bataille. Le premier champ de bataille parce que, victime de la dévastation terrible par l'attaquant allemand, comme la Biélorussie, d'où les chiffres que vous avez rappelés, une énorme quantité des civils qui sont tombés victimes de destruction des villes, des villages entiers, mais aussi, et suite à cela, logiquement, de l'implication importante, très importante, des Ukrainiens dans l'armée soviétique qui résistait à l'attaquant allemand, mais un chapitre important de l'histoire qu'on peut pas oublier, l'implication des Ukrainiens, notamment venant des parties occidentales de l'Ukraine, dans la collaboration avec l'occupant allemand, et par exemple des épisodes horribles, enfin, qui font partie de l'histoire de l'Holocauste, par exemple de Babi Yar à Kiev, eh bien les Ukrainiens...
Babi Yar qui est peut-être là aussi pour rappeler qui a été l'un des massacres les plus terribles, l'un des épisodes de la Shoah les plus épouvantables, et qui a été perpétré par des Ukrainiens. Il faut dire là aussi, comme vous l'avez rappelé Andrei Gratchev, qu'une partie des Ukrainiens ont collaboré avec les nazis. Il y a eu une division de la Wehrmacht, la SS Galicie, qui était composée, je crois, d'un peu plus de 200 000 hommes, ce qui là aussi pèse dans la mémoire russe.
Exactement. Ce qui a, à mon avis, nous permet de comparer, évidemment, bon, à toutes les guillemets nécessaires, l'Ukraine de lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, qui est redevenue évidemment partie de l'Union soviétique, à ce que je qualifierais d'une version, d'une réplique d'une Yougoslavie, vous voyez, avec ce mélange des cultures, des religions, des souvenirs, des mémoires historiques. Rappelons-le que les régions occidentales de l'Ukraine faisaient partie d'un autre empire que la Russie, et donc l'ensemble a transformé cet espace, en commençant par l'est de l'Ukraine, peuplé par les Russes et les russophones, jusqu'au eh bien des régions de entourant Lvov et les Carpates, eh bien des régions assez récemment rattachées à l'Union soviétique, à une sorte de Tchernobyl potentiel politique qui a implosé avec, bien sûr, l'Ukraine devenant indépendante de la Russie, cherchant à se construire une identité nouvelle, une histoire, eh bien, qui devait être composée, construite, parfois de toutes pièces, mais qui a conduit au moment d'un conflit qui s'est déclenché avec la Russie, un conflit déjà de Poutine. Rappelons-le, à l'éclatement de l'Union soviétique, il n'y a pas eu de problème de la séparation entre les deux grands frères slaves. Par contre, à partir du moment où l'Ukraine, en 2014, suite à une sorte de désaccord géostratégique dans les approches entre l'Union européenne et la Russie de Poutine, a été amenée à choisir sa perspective de développement, toutes ces contradictions sont montées sur la surface, faisant éclater ce qui, de l'apparence, était un état harmonieux.
Cet excursus historique est important, Florent Parmentier, pour qu'on comprenne bien quelle est la vision russe de ce territoire, l'Ukraine, avec une relation très ambivalente. C'est-à-dire, à la fois, ce sont des gens qui ont collaboré avec les nazis. Dans le même temps, c'est une région martyre de la Grande Guerre patriotique qui explique l'attitude, là aussi, très ambivalente de Vladimir Poutine et de la Russie à l'égard de l'Ukraine aujourd'hui.
Alors je pense qu'il faudrait peut-être nuancer la collaboration avec avec l'Allemagne nazie. Ça existait beaucoup dans les régions de l'Ouest. Il y a certains partis politiques en Ukraine qui s'en revendiquent, mais qui sont extrêmement minoritaires. Et surtout, il y a eu énormément effectivement de résistance aussi à l'invasion nazie du côté ukrainien, qu'il ne faut évidemment pas sous-estimer ou mettre sur un pied d'égalité.
Bien entendu, j'ai juste parlé d'une division de la Wehrmacht qui a été une division importante. On sait que, par exemple, dans les camps de concentration à Auschwitz, par exemple, il y avait peu d'Allemands, les gardes étaient ukrainiens. Donc tout ceci pèse à la fois sur l'histoire et sur la mémoire.
Et effectivement, voilà, ce qui a pu être plus gênant du côté de la Russie, c'est une tentative de réhabilitation de certaines personnes dont l'attitude vis-à-vis de l'Union soviétique, de la Russie, a pu les mener dans les bras de la collaboration. Donc effectivement, voilà, il y a ce point qui est important. Il faut se souvenir que dans la Seconde Guerre mondiale, c'est une statistique qu'on oublie systématiquement en France, mais pour une personne tombée à l'Ouest à la Seconde Guerre mondiale, il y en a 8 à 9 qui sont tombés au moins du côté front de l'Est. Donc ça, je pense que c'est toujours utile de le rappeler, car on n'a pas forcément de souvenirs. En 1946, quand le premier sondage a lieu en France, on pose la question de savoir qui a gagné la Seconde Guerre mondiale. La majorité de la population répond l'Union soviétique, parce que c'est vrai que c'est l'Union soviétique qui a payé le plus grand prix de cette victoire. Et donc la relation ambivalente, effectivement, elle est un peu la suivante. Peut-être deux points pour résumer ça. Le premier, c'est que la Russie peut s'est plus ou moins réconciliée avec l'idée d'une Ukraine indépendante, mais ça ne veut pas dire qu'elle s'est réconciliée avec l'idée d'une Ukraine souveraine. Par Ukraine souveraine, il faudrait imaginer une Ukraine qui pourrait prendre des choix de politique étrangère assez radicalement différents de ceux de la Russie d'aujourd'hui. Systématiquement, en fait, toute candidature de l'Ukraine à l'OTAN, tout souhait de rattachement de l'Ukraine à l'OTAN, a des conséquences dans les relations et engendre en fait un certain nombre de difficultés. On peut penser que c'est même cette menace de voir l'Ukraine dans l'OTAN qui explique le côté va-t-en-guerre d'un certain nombre de Russes. Et peut-être le second point extrêmement rapidement, c'est de dire que la Russie ne joue pas, à mon sens, la carte des prochaines élections. Elle attendra vraisemblablement 2024 pour essayer d'influencer l'ensemble de l'Ukraine et pas seulement la partie séparatiste qu'elle soutient.
Alors, il y a aujourd'hui un certain nombre de questions qui se posent en droit international. Tout d'abord, le fait de considérer que la Crimée est aujourd'hui russe, de facto, est-ce que c'est légal ou pas, Florent Parmentier ?
Alors, dans le cadre russe, les Russes estiment que le référendum a permis, dans le cadre de la libre détermination des peuples, de se rattacher du côté de la Russie. Le précédent qui est utilisé, c'est le précédent du Kosovo. Et effectivement, il faut se souvenir que la Russie a été extrêmement hostile à l'indépendance du Kosovo, pour un certain nombre de raisons, mais qu'à partir du moment où l'indépendance du Kosovo est acceptée, la Russie s'est engouffrée dans la brèche, en disant il y a un précédent, et donc vous ne pouvez pas voilà, le faire. Donc du point de vue russe, c'est celui-ci. Du point de vue ukrainien, c'est une annexion pure et simple.
Et cette annexion, elle a, pour remémorer aux auditeurs la carte de la région, donc on a d'un côté la Crimée qui ferme la mer d'Azov, de l'autre côté le Donbass, cette région de l'Est qui a elle aussi été annexée, mer d'Azov qui est riche dans son sous-sol d'un certain nombre de potentialités, notamment en matière de gaz. Si cette mer d'Azov est définitivement annexée par la Russie, ce qui est... en partie le cas, puisque la Russie a construit un pont, lequel pont est extrêmement mal adapté à cette mer, puisqu'il empêche un certain nombre de gros bateaux de passer. Est-ce que l'OTAN doit réagir, Florent Parmentier ?
Alors, techniquement, le Donbass n'a pas été annexé. C'est un conflit non résolu pour le moment.
Conflit non résolu, voilà. Vous dites les choses de manière très diplomatique.
Je crois voilà, que effectivement, dans ce cadre-là, qu'elle peut être, je ne sais pas si c'est à l'OTAN de prendre la direction là-dessus, l'OTAN peut ajouter une tension déjà existante. Il faut aussi se rendre compte. En revanche, peut-on imaginer quelque chose dans le cadre de l'OSCE, l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe, dans la mesure où il y a déjà des surveillances sur ce conflit engendré par l'OSCE, c'est probablement voilà, ce qui est plus naturel aujourd'hui.
Andrei Grachev, votre point de vue, un peu le point de vue russe.
Bien sûr, bon, russe... ou personnel, si vous voulez.
C'est moi, en tout cas votre point de vue qu'on aime.
Moi, je vois le temps, comme vient d'être appelé très justement tout à l'heure, bien un participant invisible en quelque sorte derrière la scène. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, c'était pas que le choix annoncé de l'Ukraine de peut-être d'accélérer son adhésion dans l'Union européenne qui a déclenché le dernier conflit, mais c'était surtout l'ombre, je dirais le spectre de l'Ukraine annonçant son intention ou réannonçant en quelque sorte son intention de rejoindre l'OTAN avec le cauchemar dans la tête des dirigeants russes, la perspective de voir Sébastopol un jour se transformer en une base navale de l'OTAN ou de la flotte américaine sur la mer Noire. Mais dès qu'on évoque l'OTAN, on est obligé de revenir encore en arrière vers la guerre russo-géorgienne. C'est là, en 2008, que, un prétendu conflit entre le pouvoir central avec le président Saakashvili de l'époque, depuis qui a choisi l'Ukraine comme sa patrie suivante, c'est ce conflit entre le pouvoir central en Géorgie et les régions autonomes non géorgiennes de l'Abkhazie, de l'Ossétie, qui a provoqué l'intervention militaire de la Russie, la guerre dite russo-géorgienne, mais dont la raison principale était exactement la volonté, l'intention formelle annoncée par Saakashvili de rejoindre l'OTAN et surtout ce qui semblait être quasiment annoncé également par la direction géorgienne de l'époque, le souhait ou l'espoir de voir l'OTAN intervenir derrière lui dans son conflit avec la Russie. Malheureusement, on est obligé de voir peut-être le rappel de ce type de raisonnement dans les démarches et même dans les certaines déclarations de président ukrainien actuel qui a recommencé dans les derniers jours d'évoquer son souhait de voir l'OTAN impliqué dans le conflit actuel autour de ces Bon, peut-être c'est trop de dire. Enfin, les navires de guerre. Il s'agit plutôt des trois vedettes blindées.
Oui, ce ne sont pas des navires de guerre très imposants. Les Russes se moquent un peu
de
la marine ukrainienne.
De toute façon, enfin, on est. À mon avis, on est à une étape où ça nous laisse espérer à ce que cet incident au large de Mariupol ne va se transformer en incident dans le golfe de Tonkin.
Voilà, je disais tout à l'heure que votre point de vue était celui qu'on aimait entendre sur les questions russes, parce qu'on a le point de vue russe. Florent Parmentier, peut-être là aussi dire dans quelle mesure les Occidentaux, l'Amérique d'ailleurs, récemment par la voix de Donald Trump, a un point de vue différent sur ce qui est en train de se dérouler en Ukraine, en Crimée, et revenir peut-être à la situation géorgienne évoquée par Andrei Gratchev.
Oui, ce à quoi nous pourrions assister dans les prochains jours, c'est la complémentarité entre deux options. Une option dure qui serait celle des États-Unis. États-Unis ont livré des armes cette année à l'Ukraine, de manière à renforcer les défenses ukrainiennes. Ce ne sont pas des armes offensives, mais ce sont plutôt des armes défensives. Donc il y a vraisemblablement un soutien dur qui sera celui des États-Unis. Et de l'autre côté, nous pourrions assister dans les prochains jours à une initiative franco-allemande dans le cadre de ce que nous appelons le format Normandie. Format Normandie qui, depuis quelques années maintenant, 2015, a permis de mettre autour de la table russe, ukrainien, français et allemand. Et il y a vraisemblablement quelque chose qui est jouable dans ce cadre-là sur le plan diplomatique.
Est-ce que vous pensez qu'une escalade est possible dans ces deux options ?
L'escalade est malheureusement toujours possible. Est-ce qu'on peut s'attendre à une offensive terrestre maintenant par rapport au cadre des trois navires dont nous avons parlé ? Vraisemblablement non. Il faut voir que l'armée ukrainienne est beaucoup plus solide en 2018 qu'elle ne l'était en 2014. En 2014, il y avait encore beaucoup de bataillons, dont le bataillon Azov qui était présent sur le terrain, avec des gens assez peu expérimentés et donc potentiellement finalement des victimes. Aujourd'hui, l'armée ukrainienne est beaucoup plus professionnelle, ce qui veut dire que toute incursion supplémentaire sur le territoire ukrainien aurait un coût certain pour la Russie, qu'elle n'est pas nécessairement prête à prendre pour un enjeu qui serait aujourd'hui finalement limité.
Mais un blocage de fait de la mer d'Azov ?
Le blocage de fait de la mer d'Azov a lieu, déjà eu lieu d'une certaine manière en empêchant les flux commerciaux. Il est certain qu'il y a deux points d'attention peut-être pour l'Ukraine, la mer d'Azov pour les prochaines semaines, et pour les dirigeants ukrainiens, il y a également le cas politisé de la minorité hongroise dans l'ouest de l'Ukraine, où la Hongrie est elle-même extrêmement réticente à tout progrès de l'Ukraine dans le cadre de l'OTAN. Donc on a là quelque chose aussi qui est potentiellement sur la question des minorités et compliqué à gérer pour les dirigeants ukrainiens.
Et oui, il ne faut jamais oublier que la Première et la Seconde Guerre mondiale se sont déroulées sur fond donc de ces minorités linguistiques. Andrei Gratchev, peut-être un mot sur l'avenir tel que vous pouvez vous l'imaginer aujourd'hui.
Bon, jusqu'à tout récemment, j'avais l'espoir de ce que le conflit non résolu, comme
l'a dit Florent Parmentier,
ça vient d'être dit, va le rester jusqu'aux élections présidentielles en Ukraine. De toute façon, dans la perspective russe, elle méritait d'être gelée ou laissée dans le frigo jusqu'aux ces élections, d'autant plus que effectivement, tous les sondages donnaient Poroshenko perdant dans ces élections, avec une éventuelle perspective du retour aux commandes du pays de Yulia Poroshenko.
Tymoshenko,
voilà, excusez-moi. Donc, de ce point de vue, je vois ni vraiment de logique de précipitation ou de tentative d'aggravation de conflit côté russe. Pareil, évidemment, pas de perspective, enfin, de la reprise de l'offensive terrestre, c'est-à-dire du retour au projet de rattachement à la Russie, de ce qui avait été appelé la nouvelle Russie, impliquant ou intégrant Mariupol. En un certain sens, la construction du pont entre enfin le mainland, la Russie continentale et la péninsule de la Crimée, signifiait l'abandon par la Russie de l'espoir enfin de rattachement de cette partie de l'Ukraine. Donc, à mon avis, bon, ça va faire chaud dans les prochains mois. En attendant, quand même la campagne présidentielle et les élections présidentielles en Ukraine, qui heureusement, dont la date semble être confirmée récemment.
Merci à tous les deux, Florent Parmentier, Andreï Gratchev. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Andreï Gratchev, Un nouvel avant-guerre. C'est paru chez Alma Éditeur.